Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial du Rendez-vous Tech. Généralement, on couvre l'actu de l'industrie tech avec toutes les news hyper intéressantes, les frasques des personnalités qu'on aime ou qu'on aime détester. Mais aujourd'hui, on a un petit épisode spécial bien sympathique et je vais vous en parler dans une seconde après vous avoir fait mes présentations de moi, c'est-à-dire que je suis Patrick Béja. Nous sommes, si tout va bien, en mars 2023 et c'est l'épisode numéro 504. Comme vous l'avez lu dans le titre, nous allons parler de robots, mais pas n'importe quel robot, les robots humanoïdes. Insérez un petit son terrifiant là, de film. Vous comprendrez qu'on va très vite, évidemment, arriver à ce sujet-là. Pour m'accompagner, puisque moi, je ne sais absolument pas de quoi je parle, comme c'est souvent le cas dans cette émission, j'ai le concours de trois personnes absolument formidables qui, elles, savent de quoi elles parlent. Et je vais commencer par dire bonjour à Florent, qui est avec nous et qui est un petit peu responsable de la mise en place de cette émission. Si ça se passe bien, si l'émission est cool, c'est grâce à lui. Et si vous ne l'appréciez pas, c'est parce que je fais les choses n'importe comment. Donc, comme toujours, c'est comme ça que ça se passe. Bonjour Florent, comment vas-tu?
Bonjour.
Enchanté.
Ça va, le contrat me paraît pas mal.
Ouais, c'est bon, tu signes? Très très bien.
Ça va.
Je vais revenir vers toi dans une seconde, mais je vais aussi dire bonjour à Steve, qui est avec nous aussi. Bonjour Steve.
Bonjour.
Enchanté, enfin enchanté, on s'est déjà parlé de plusieurs fois, ça se compte sur les doigts d'une main.
C'est ça.
Merci d'être avec nous. Et enfin, on a Céline, on est un petit peu aux quatre coins de l'Europe aujourd'hui. Bonjour Céline, comment vas-tu?
Salut, ça va très bien, merci.
Très bien, merci d'être avec nous également. Je vais essayer de parler un petit peu moins que d'habitude, je vais sans doute pas y arriver, mais on va tenter. Et je vais commencer en vous donnant la parole pour que vous puissiez vous présenter. Je vous rappelle qu'on va parler de robotique humanoïde. Les robots, on connaît, hein. Les robots humanoïdes, ça commence peut-être à se profiler. Et en tout cas, on y travaille beaucoup. Vous êtes tous les trois dans différents domaines de recherche liés à ces sujets. Ou en tout cas, vous êtes passés par de la recherche. Peut-être que vous faites des choses un petit peu différentes aujourd'hui. Florent, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, qui tu es, combien tu as de chats? Enfin, les questions essentielles, tu vois.
Un chat pour le moment. Et donc, Florent, oui, mais j'ai un doctorat en robotique humanoïde et en l'occurrence, je travaille plutôt sur des aspects qu'on va qualifier de bas niveau, à savoir comment est-ce qu'on met en mouvement les robots en termes d'électronique et de mécanique, donc les moteurs qu'on utilise, éventuellement des vérins, ce genre de choses. Et maintenant, je ne suis plus du tout dans la robotique humanoïde, mais je fais toujours des sujets qu'on a à voir, à savoir que je suis ingénieur de recherche sur des problématiques de simulation. Et c'est en fait déjà un peu ce que je faisais en robotique humanoïde, sauf que maintenant je suis sur d'autres problématiques, à savoir les réseaux électriques, mais c'est un peu la même idée.
D'accord. Super, merci Florent, merci d'être avec nous. Steve, qui es-tu, d'où viens-tu? Vous noterez que qui est-il, d'où vient-il, pour ceux qui se souviennent de la chanson, ça se termine par Formidable Robot. C'était pas voulu, c'était juste, vous voyez, ça vient naturellement pour moi. Steve, qui es-tu?
C'était pas voulu, mais j'avoue que ça me parle. J'ai l'âge d'avoir rêvé sur ce genre de dessin animé. Donc moi, je suis maître de conférence à l'Université d'Édimbourg. On dit lecturer en anglais, mais bon, c'est maître de conférence. Et je suis maître de conférence en robotique. Et ce qui m'intéresse particulièrement, ce sont les robots dits à jambes. Donc les robots humanoïdes, mais aussi des robots quadrupèdes ou avec un nombre quelconque de jambes. On sera sûrement amené à parler un petit peu plus de quoi, en quoi ça consiste en en particulier.
Alors déjà, tu poses l'ambiance. Un nombre quelconque de gens, tu veux dire qu'on peut tout de suite commencer à cauchemarder sur des robots à 10 jambes, des trucs qui se déplacent en rampant, tu vois, ce genre de trucs. C'est très bien, c'est parfait. Je suis sûr qu'on va parler de Boston Dynamics aussi à un moment. On va faire un compteur du nombre de fois qu'on va mentionner la boîte.
C'est la chance, ouais.
Super. Céline, c'est à ton tour. Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu?
Oui, donc moi, j'ai fait mon doctorat avec OLAS à Toulouse, avec, où j'ai rencontré Steve et Florent. Ce doctorat, il avait la particularité qu'il était dans le domaine de la rhétorique. Donc, j'ai étudié le langage, les mots qu'on utilise pour parler de la robotique. Et actuellement, je suis chercheuse à l'Université de Vienne, en Autriche, où je continue dans le domaine de la rhétorique, l'éthique des technologies, mais avec un aspect tourné vers l'entrepreneuriat en tech.
Super. Merci beaucoup, Céline. Peut-être que je vais te poser la première question, parce que c'est un domaine qu'on n'attend pas forcément. Si on dit on va parler de robotique humanoïde, sûr qu'on va on pense plus à genre des moteurs, des vérins et le nombre de jambes. Quelles étaient les conclusions? Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'une conclusion intéressante à laquelle tu es arrivé dans ton doctorat? Je te prends un petit peu de cours peut-être, mais un truc où tu t'es dit « Ah oui, ça, je m'y attendais pas » ou « Ça, c'est… Imagine, tu es en soirée, tu dis « Ah oui, je fais ça » et il y a des gens qui te disent « Ah ouais, à qui tu veux montrer comme c'était intéressant de faire ton doctorat ?» Tu dis « Ouais, cette anecdote-là, ça a super marché. » Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple?
J'irais un des problèmes majeurs, et en fait, c'est vraiment comme ça que mon projet de recherche avait commencé, c'était la relation avec les journalistes, entre en fait les roboticiens et les journalistes, où il y avait une question de dialogue de sourds et sur la question de est-ce qu'on doit utiliser le mot intelligent ou non, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, en fait, c'est une question énorme. Et une des choses que moi, j'ai trouvé super intéressante quand j'ai commencé à faire mes recherches, c'est que j'ai observé en fait que un langage qui s'est imposé, on peut le combattre, on peut faire tout ce qu'on veut, mais c'est trop tard. Alors bien sûr, on a vraiment intérêt à choisir les mots qu'on utilise pour parler d'un sujet, c'est toujours ça de gagner. Mais par exemple, voilà, le mot intelligence artificielle, on ne peut plus l'enlever, ou parler de robots en fait, et d'appeler ça des plateformes, en fait… c'était intéressant pour moi de voir comment les experts en arrivaient à cette solution, mais en même temps ça marchait pas du tout. Donc en fait, moi, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est de se dire si on est bloqué avec ça, quelle stratégie on peut développer pour quand même pouvoir exprimer ce qu'on fait quand on fait de la recherche en robotique.
Du coup, il y avait des exemples quand tu dis les roboticiens vont parler de plateforme. Les journalistes vont juste pas l'entendre, et on dit les journalistes, mais c'est peut-être le plus grand public à travers les journalistes, ils vont pas comprendre de quoi il s'agit. Il faut qu'on parle de robots, et les robots, il y a un imaginaire qui est associé à ça, qui correspond pas forcément à ce que veulent exprimer les roboticiens, c'est ça? C'est de là que vient
la... Oui, c'est exactement ça, et typiquement une conversation, ça peut être un roboticien qui explique son travail en disant « voilà, je travaille sur une plateforme », et donc… On se dit, mais quoi? Mais de quoi il parle? Et puis il dit, mais attends, plateforme, tu veux dire un robot? Et donc le roboticien va dire, oui, c'est ça que je veux dire. Et nous, notre réaction, ça va être, ah, il fallait me le dire que tu travailles sur Terminator. Et là, tout est perdu. Voilà, c'est ce genre de problématique que j'ai essayé de démêler.
Est-ce que dans le cadre, un cadre qui est déjà présent dans le quotidien, en tout cas des gens qui écoutent le Rendez-vous Tech, parce qu'on en parle tout le temps, quand on parle d'intelligence artificielle avec la dernière vague des intelligences artificielles génératives spécifiquement, tu dis l'utilisation du terme intelligence est lui aussi peut-être, de ce que je comprends dans ce que tu dis, peut-être un petit peu problématique, parce que, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, la réalité qu'il y a derrière ces termes, ce n'est pas une intelligence, c'est des algorithmes, c'est des modèles de deep learning, ce genre de choses. Là aussi, ça peut poser problème si on parle d'intelligence artificielle. Si on pouvait, il faudrait remplacer le terme rétroactivement dans l'imaginaire humain.
Alors, c'est ça qui est marrant avec ce terme, c'est qu'au début, donc, quand il a été choisi, les experts s'inquiétaient non pas du mot intelligence mais artificielle, Qu'en fait, voilà, ils se disaient, mais ça va poser problème, on va mal comprendre. Et ils ne se sont pas du tout dit que des années plus tard, en fait, ce serait le mot intelligence qui en fait, créerait un doute parce que le progrès va dans une certaine direction, parce qu'il y a des modèles qui ressemblent, qui sont analogiques à ce que nous, on entend par intelligence. Et donc voilà, mais en fait, c'est pas toujours possible de voir venir ce qui va poser problème, déjà. Donc, est-ce qu'on pourrait le changer idéalement? Oui, je pense que les roboticiens seraient contents qu'un autre mot vienne remplacer ça, parce que ça nous enlèverait toute une série de connotations qui nous aident pas, en fait, à vraiment penser le futur. Mais comme je disais, en même temps, maintenant, c'est imposé. Donc, le mieux qu'on peut faire, c'est de le prendre comme un mot qu'on dit, comme lexicalisé, donc un mot tout fait, que tout le monde comprend, on voit plus ou moins ce que ça veut dire. Et après, évidemment, la question, c'est de voir ce qu'on en fait et comment on le met dans un contexte pour lui donner la signification qu'on veut, quoi.
J'espère que les gens qui écoutent cette émission au moins comprennent que derrière intelligence artificielle, il y a beaucoup de programmation et d'algorithmes et d'apprentissage profond, de deep learning. Et effectivement, bah, c'est complètement à propos. Peut-être que ces termes dont on ne peut pas se débarrasser, il faut comprendre ce qu'il y a véritablement derrière au-delà de l'imaginaire. Et comme on l'expliquait avec ChatGPT, par exemple, qui n'est pas tellement une intelligence, mais qui est une sorte de prédicteur de texte, d'autocorrect géant et super complexe. Et du coup, ça nous aide à en comprendre un petit peu les capacités et les limites. Et j'imagine que quand on parle au niveau sociétal, c'est surtout ça qui peut poser problème. Parce que si on dit juste intelligence artificielle, on imagine des choses. Si on explique, bah, c'est un algorithme qui prédit, qui essaye de prédire le mot suivant de manière super impressionnante, bah, on comprend un petit peu mieux. Et peut-être que dans le cadre des robots humanoïdes, on y vient, on ferait bien d'avoir le même type de réflexion. Parce que moi, alors Céline va grimacer, mais quand je dis robot humanoïde, je pense immédiatement, bon, on a déjà... Je vous ai dit que j'allais commencer avec ça, hein, donc je vous ai prévenu. On a déjà les IA d'un côté. La deuxième moitié de Skynet qui nous manque, c'est Terminator. Donc en gros, vous travaillez sur Terminator, hein, c'est bien ça?
Exactement.
Tout à fait. Bon, je vous pose la première question. On en est où de robotique humanoïde? Et surtout, peut-être même avant ça, quand on dit robotique humanoïde, est-ce qu'on veut dire... des machines, des robots autonomes, plus ou moins autonomes, qui ont des formes humanoïdes, c'est-à-dire de bras, de jambes? Est-ce qu'on parle de visages qui ressemblent à des visages humains? Il y a des travaux qui sont de cette nature aussi. Ou tout ça, ou qu'est-ce qu'on entend par robotique et humanoïde exactement? J'imagine que Florent ou Steve voudront répondre là.
Je peux peut-être me lancer. Vas-y. Ce que je trouve intéressant... dans la robotique humanoïde et dans la manière dont c'est réfléchi par la communauté scientifique, c'est qu'on passe, et c'est regrettable, assez peu de temps à se poser ces questions. C'est-à-dire que tout ce que vous décrivez là, on va l'assimiler à de la robotique humanoïde. Moi, par exemple, je ne travaille absolument pas sur des reconstructions de visages tels qu'on peut le voir... Chez des exemples de nos collègues japonais, je suis fondamentalement intéressé par le mouvement. La robotique humanoïde, ça va être, donc, tel que moi je la conçois, ça va plutôt être l'idée d'en effet créer des robots à taille humaine, avec des morphologies humaines, donc des robots anthropomorphes, et essayer de les doter d'une autonomie de mouvement. C'est-à-dire, ils vont être capables d'évoluer dans un environnement qui ressemble à celui dans lequel on vit au quotidien et être capable de s'adapter dans ces environnements, soit en accomplissant des tâches de mouvement, soit en interagissant, et c'est ce qui est intéressant, avec le monde. Et donc de là, on peut imaginer vraiment toutes sortes d'applications à la robotique humanoïde.
Du coup, J'ai envie un petit peu de te demander à quoi ça sert, mais tu y réponds plus ou moins. J'ai l'impression que quand on travaille, même dans le domaine de la recherche un petit peu, presque pas fondamentale, mais enfin, on fait de la recherche pour le principe de la recherche, quand on pense aux applications, on se dirige, aux applications dans la robotique, on se dirige un petit peu naturellement vers des robots qui sont plus ou moins anthropomorphes, parce que si on veut qu'ils interagissent dans le monde, ils doivent être capables de faire plus ou moins les mêmes choses que les formes de vie pour lesquelles le monde est conçu. C'est-à-dire que s'il y a des marches, il faut qu'ils puissent monter les marches. S'il y a des mugs, il faut qu'ils puissent attraper les mugs. Et ça, ça se fait, on arrive plus ou moins à une forme d'anthropomorphisme. C'est le cas ?
Alors, oui. Donc, je pense que la question de pourquoi on fait ça et à quoi ça sert, elle est intéressante. Il y a plusieurs réponses qu'on peut donner. Clairement, il y a un peu cette idée de dire on va faire des robots humanoïdes pour qu'ils fassent la même chose que nous et si possible, des tâches ingrates. Mais avoir un robot humanoïde, ça amène un certain nombre de problèmes. Donc, par exemple, on avait dit qu'on parlerait de Boston Dynamics. ils ont un robot quadrupède qui s'appelle Spot Mini. Ils ont un robot humanoïde qui s'appelle Atlas. Et en fait, en termes de déplacement, les robots quadrupèdes sont beaucoup plus agiles et beaucoup plus capables de se déplacer aujourd'hui. D'ailleurs, c'est assez simple. Spot est vendu par Boston Dynamics, pas Atlas. Tout simplement parce que quand on a quatre pattes, on est plus stable que quand on a deux. Mmh. Donc, il y a un peu cette question de est-ce qu'on a vraiment envie de faire des robots humanoïdes. Je pense qu'une autre, une partie de la réponse, qui en tout cas moi m'intéresse, c'est que justement un robot sur deux jambes qui fait une taille humaine, ce qui est bizarre, c'est qu'il est il n'est pas très stable, si on pousse, il va tomber. Et donc, il y a un défi, entre guillemets, technologique qui est associé à ça, qui me semble être intéressant pour lui-même, en dehors des applications. Un exemple que je prends souvent, c'est le fait que l'Agence spatiale européenne, par exemple, elle est rentable. Et la raison pour laquelle elle est rentable, c'est parce qu'on fait de la recherche, il y a un objectif qui est clair. Par exemple, si on cherche un remède au paludisme, personne ne va se demander pourquoi on fait ça. Mmh. Et il y a aussi un autre intérêt à la recherche qui est la manière dont on fait les choses et les découvertes accidentelles ou volontaires qu'on fait au passage. Par exemple, toute la recherche spatiale a eu un impact énorme sur la médecine parce que toutes les technologies qui ont été développées en termes d'échographie, et j'en passe, ont eu des retombées assez importantes. Donc je pense que ce qui est intéressant avec la robotique humanoïde, c'est le fait que ce soit tout simplement très très dur. Et le fait que ce soit dur, ça nous motive à découvrir de nouvelles manières de résoudre des problèmes ou tout simplement de les formuler. Donc il y a ce domaine applicatif, désolé c'était une longue réponse.
Non mais c'est parfait et la réponse me plaît beaucoup, moi qui suis fasciné par la recherche pour la recherche, quoi. Mais tu évoquais du coup l'état de l'art, ce qu'on fait de mieux, et tu évoquais Boston Dynamics. Pour qu'on ait une idée un petit peu dans le grand public, Boston Dynamics, c'est une boîte qui a beaucoup de visibilité. Est-ce qu'il représente vraiment le plus performant de ce qu'on peut faire en robotique et en robotique humanoïde? Ou est-ce que c'est juste ceux qui ont le meilleur département marketing avec leur vidéo de robots qui dansent et en fait, la recherche est au moins à un niveau équivalent et peut-être même va au-delà.
Est-ce que je te laisse la parole, Florent, ou est-ce que je continue à...
Vas-y, je pense que tu es plus à jour que d'accord, moi, mais enfin... Ouais, vas-y.
Encore une fois, donc, bon, moi, mon opinion là-dessus, elle n'engage que moi. Donc, je pense que Boston Dynamics, il y a un succès qui est formidable d'un point de vue technologique, en tout cas, de cette société, qui vient de la recherche. Hein, Marc Rebert, qui est un élément clé de cette société, c'est un grand chercheur qui a amené la robotique à faire des progrès assez remarquables depuis plusieurs années. Ce dont on a l'impression, parce qu'il n'y a pas tout qui filtre, c'est que en termes de recherche pure, ils ne sont pas forcément beaucoup plus en avance que la communauté scientifique.
Donc il y a une forme de mise en scène qui a beaucoup de succès. Mais c'est pas...
Alors, du point de vue de la recherche et de la manière de formuler les problèmes, ils sont peut-être pas forcément en avance. Mais par contre, du point de vue d'exécution, je pense qu'ils sont, ils sont vraiment très, très forts. Notamment ce qui est fait avec l'humanoïde Atlas. Je pense qu'il y a, 10 ans, je ne suis pas sûr que grand monde dans la communauté pensait que c'était possible.
Du coup, quand il y a une nouvelle vidéo Boston Dynamics à l'université, vous vous réunissez tous derrière l'ordinateur et vous êtes là, oh putain, regarde ce qu'ils ont fait, mais comment ils y arrivent. Regarde, là, ça il est sur un pied, ouais. Mais...
Des réactions impressionnantes, ouais.
Céline, tu confirmes, tu les as vues ?
Oui, oui. C'est sympa à observer comme phénomène.
Dans leur environnement naturel, les chercheurs en robotique expriment une excitation notable à l'arrivée d'une nouvelle vidéo de Boston Dynamics. D'accord, bon. Vas-y, Steve.
Je pense qu'il ne faut, vraiment pas diminuer ce succès. Ce n'est pas juste du marketing. Il y a vraiment des choses très impressionnantes qui sont faites. On s'est pendant longtemps demandé comment ils s'y prenaient. Ils ont donc sur des conférences un peu plus scientifiques, on va dire, ils ont un peu expliqué les méthodes qu'ils utilisaient. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que on n'a pas l'impression qu'ils détiennent des algorithmes secrets qui les font vraiment être au-dessus de la mêlée. On a juste l'impression que c'est des gens qui travaillent très très bien et qui ont mis des moyens aussi.
Donc je pense que leur gros point fort, c'est aussi ils fabriquent leurs robots de A à Z et ensuite ils les utilisent. Là où il y a pas mal d'acteurs qui vont plutôt avoir soit être d'un côté de la chaîne, à savoir fabriquer, ou plutôt dans l'utilisation. Et je pense que leur grande force, c'est aussi de connaître de bout en bout leur robot, quoi.
D'accord. Oui, j'imagine que ce n'est pas le même genre de moyens quand on est une société qui est, j'imagine, bien financée, dont le but est de faire des robots entièrement, et quand on est dans un labo de recherche et qu'on n'a pas accès à tous les... toutes les étapes de la chaîne. Mais du coup, pour répondre à cette question, où en est la robotique humanoïde aujourd'hui ? Si on veut savoir ce que font de mieux les différents labos de recherche dans le monde, un exemple, ça va être de voir Spot et Atlas de Boston Dynamics, et on peut dire, de Boston Dynamics, et on peut dire, bon, on est plus ou moins à ce niveau, quoi. On a des robots quadrupèdes qui se déplacent avec beaucoup de stabilité, qui peuvent porter des charges, qui peuvent escalader des marches, ce genre de choses, et des robots bipèdes qui vont tenir relativement stables, même si on les pousse un petit peu, qui vont pouvoir sauter, même faire des sauts périlleux, enfin des trucs de fou. Ça, j'imagine que pour 40 vidéos d'essais, il y en a une qui est bonne, le reste, il se casse la gueule lamentablement. On ne sait pas, mais on peut l'imaginer. Donc ça, c'est un peu le standard de la robotique, alors plus ou moins humanoïde, puisqu'on parle de quadrupèdes aussi. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas présentes dans l'imaginaire collectif que vous voudriez évoquer ?
Oui, alors juste pour essayer de rentrer un petit peu dans le détail, je pense que c'est un état de l'art de la robotique humanoïde qui est démontré par Boston Dynamics. Donc, je vais me risquer à utiliser le mot intelligence parce qu'on en a un petit peu parlé. et la question, c'est d'où vient l'intelligence dans le mouvement quand on regarde un robot comme Atlas. Et la question qui est clé en robotique humanoïde, par exemple, par rapport à un robot industriel, c'est encore une fois cette notion d'autonomie. Donc, Boston Dynamics, maintenant, ils sont assez transparents. Hein, ils ont un peu ces vidéos bloppers là, où ils montrent les gros échecs que le robot dont est victime le robot. D'ailleurs, ces vidéos d'échecs sont souvent impressionnantes aussi parce qu'on a l'impression qu'il y a des comportements presque humains. Mais encore une fois, on parle pas d'intelligence. Mais donc, ce qui va se passer
sur ces vidéos, excuse-moi, je te pose la question. Oui. Nous, elles nous font marrer. J'imagine que vous les regardez avec autant d'ascension, peut-être même plus, que les vidéos où ça se passe bien pour voir fonctionnement du truc, quoi.
Donc c'est vraiment ces questions d'autonomie et de robustesse qui sont clés dans la robotique humanoïde. Mmh. Et donc l'autonomie ici, elle est très importante parce que les mouvements qu'on voit démontrés par Boston Dynamics, c'est des mouvements qui ont été, entre guillemets, j'essaie de peser mes mots, donc ils ont été... conçus à la main par des ingénieurs et des animateurs. C'est-à-dire, le robot, on indique à l'algorithme de génération de mouvement qu'à cet endroit, il faut effectuer un salto arrière. Et donc, ce n'est pas vraiment de l'autonomie, dans le sens où on va être capable de générer ce mouvement. C'est scripté. Ça reste très impressionnant. Je ne veux vraiment pas minimiser ça. Mais cette question de l'autonomie et de dire « je suis dans une situation donnée, comment est-ce que je vais m'adapter à mon environnement pour accomplir une tâche qui va être formulée à un très haut niveau ?» C'est-à-dire, au lieu de dire « fais un salto, monte sur la marche, fais un 180 degrés et salue la foule à la fin », si l'objectif, c'est juste de dire « va me chercher un café », on est sur des niveaux de raisonnement qui sont un petit peu plus élevés et sur lesquels, donc je pense que Boston Dynamics ne s'est pas particulièrement penché pour le moment, et sur lequel il y a une autre tranche de la communauté qui travaille. Voilà. Et donc, sur les quadrupèdes, on est très à l'aise sur le mouvement. Et je pense que ce qui reste défaillant un petit peu aujourd'hui, mais Florent, tu peux peut-être plus élaborer que moi, c'est sur la notion d'interaction avec l'environnement. C'est-à-dire que le business model de Boston Dynamics sur Spot, ça va vraiment être, on va faire de l'inspection, on va vérifier des niveaux de, on va lire des manomètres, on va inspecter des conduites de gaz, vérifier que tout va bien, mais même s'il y a des démonstrations de manipulation, c'est pas des choses qu'on sait faire de manière très robuste.
C'est-à-dire que on est surtout dans les capacités, je dirais presque commerciales, dans du déplacement et de l'observation, mais pas vraiment dans l'interaction. On n'y est pas encore.
Je pense.
Ouais.
Ouais, sachant que c'est tout de suite des problématiques aussi qui sont tout autres et très compliquées.
Bien sûr.
Notamment parce qu'il y a des problématiques de sécurité qui sont... Enfin, moi, Atlas, j'ai pas envie de l'avoir à côté de moi qui fait des mouvements, même si je sais que, bon...
Qui fait son salto quand on est dans la salle de gym de Boston Dynamics, ça va.
Voilà, c'est ça. Ouais.
S'il est en train de descendre l'escalier et qu'il y a Florent en bas de l'escalier, tu te dis, oula, je vais m'écarter. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs étapes. Le déplacement qui est la base, l'interaction qui viendra ensuite, et on n'y est pas encore, d'après ce que je comprends de ce que vous me dites. Donc l'interaction avec l'environnement, c'est...
C'est peut-être juste que c'est... on n'a pas de démonstration à la Boston Dynamics des interactions, mais il y a aussi d'autres laboratoires ou entreprises qui travaillent dessus, qui probablement ont des avancées comparables à Boston Dynamics. Ouais.
J'avais l'impression qu'il y avait des domaines de recherche intéressants sur le meilleur membre, la meilleure manière de créer un membre ou une main, une sorte de main, pour qu'elle puisse attraper des trucs. Et c'était genre, est-ce que c'est un truc de poulpe? Est-ce que tu as des machins collants? Est-ce que, qui sont peut-être plus efficaces pour un robot qu'une main à cinq doigts? Ou peut-être plus faciles à implémenter? Mais l'étape suivante encore, ce dont parlait Steve, c'est carrément le fait de lui demander une commande un petit peu abstraite ou complexe, genre va me chercher le café. Là, c'est carrément, enfin, il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte. Il faut de la compréhension sémantique, qu'il sache ce qu'est le café, qu'il sache où est le café, qu'il sache y aller. Enfin, on retombe dans le domaine de l'intelligence artificielle, presque, ou de j'hésite à utiliser le terme moi aussi.
Et il peut y avoir des blocs qui en effet se regardent. Mais... Ouais.
Des quoi, pardon, Florent?
Disons que je pense que on peut vite en avoir peur si on le voit de manière globale. Mais en effet, il peut y avoir des blocs, notamment la détection du langage, qui soit basé sur l'intelligence artificielle. Mais je pense qu'il faut garder ça comme plein de petits blocs qui communiquent les uns avec les autres, dont certains sont très algorithmiques, dont la plupart sont très algorithmiques d'ailleurs.
Je peux juste intervenir sur la question du mot intelligence artificielle, parce qu'il faut vous déculpabiliser avec. Voilà, c'est vraiment. De toute façon, il est là. On n'en a pas d'autre qui soit plus efficace que celui-là pour le moment. Donc, ne vous inquiétez pas. J'ai remarqué au début, mes premiers mois au labo, au LAS, je remarquais en effet que les roboticiens arrêtaient de parler dès que j'entrais dans la pièce. Mais finalement, ça s'arrange, je vous assure. Non, mais par contre, je voulais juste intervenir encore sur la question de Boston Dynamics. En fait, c'est vraiment intéressant d'entendre Florent et Steve parler de la façon dont eux, ce qu'ils voient en fait dans ce genre de vidéo. Parce qu'en fait, le grand public comme moi, moi je me considère dans cette catégorie-là, on va être impressionné, on va avoir toute une série de sensations et d'impression très forte face au mouvement, mais on n'a pas de clé pour vraiment comprendre ce qui fait que c'est impressionnant. Donc, en fait, spontanément, nous, on va aller dans notre attribution à l'anthropomorphisme, au mouvement qui nous semble naturel. Et en fait, ben là, ce que Steve et Florent ont fait, de nous expliquer comment eux, et qu'est-ce qu'eux, ils trouvent qui est impressionnant, je trouve que ça marche assez bien, justement, pour voir les deux niveaux. Et donc, on peut parler d'intelligence, parce que oui, ça nous paraît intelligent. Est-ce que ça l'est ou pas, dans un sens oui, dans un sens non? Ça dépend à quel niveau on parle.
Ça dépend de ce qu'on définit par, enfin, de ce qu'on dit quand on entend, de ce qu'on entend quand on dit intelligence artificielle aussi, mais
et surtout dans la façon dans laquelle on veut se servir du mot pour nous faire passer un message. Là, Steve a parlé d'intelligence du mouvement. Ben, en fait, ça nous donne le message qu'il trouve ça impressionnant dans sa qualité d'expert. Ouais. Et il y a rien d'autre derrière ce mot-là.
Et vas-y, Steve.
Oui, mais en tout cas, c'est le point très important soulevé par Florent et qui fait suite à la question sur où on en est en robotique humanoïde. Donc, on a cet aspect-là qui est très développé et très connu du grand public parce que c'est plus impressionnant. Et c'est la blague que font mes amis quand ils voient des vidéos de mouvements que je produis. Ils disent, mais enfin, il galère ton robot, pourquoi tu... parce qu'en fait, il y a tout un tas d'autres problèmes qu'on essaie de résoudre. Et chacun de ces problèmes, en fait, implique beaucoup de monde et beaucoup de recherche. Et je pense que c'est un cas où vraiment prendre la science-fiction et prendre le robot C-3PO dans Star Wars et se demander qu'est-ce qu'il faut pour avoir simplement un robot qui est capable de faire ça, ben on l'a dit. Alors, donc l'intelligence artificielle, ça va plus être un moyen, mais il va falloir être capable de reconnaître du langage, de émettre des sons qui sont interprétés comme du langage. Il faut être capable de raisonner, de se déplacer, d'interagir avec le monde. Alors bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, c'est 3PO, parce qu'il ne sait pas faire grand-chose avec ses mains. Mais,
non, mais justement, c'est un très bon exemple. C'est un très bon exemple, parce qu'on peut se dire, C3PO, on en est où? Est-ce qu'on est à 5 ans, 10 ans, 20 ans? Parce que moi, tu me dis, tu mets ChatGPT dans Atlas, et ça y est, c'est bon, on l'a, C3PO, presque. Alors, mais est-ce qu'on en est où? À combien de temps de C3PO on est?
Je pense vraiment très, très, très loin.
Ouais, d'accord. C'est une illusion.
Alors, après, ça, c'est des famous last words, hein, parce que, encore une fois, c'est très dur de voir à quel point... Je pense que ChatGPT, j'ai beaucoup de chercheurs en intelligence artificielle dans la communauté. Et encore une fois, un peu comme les résultats de Boston Dynamics, ça a vraiment surpris du monde. Y a une réussite vraiment assez forte dans l'algorithme qui est proposé. Mais je pense que malgré tout, oui, c'est assez dur d'évoluer, mais un robot autonome qui traverse un désert... Il y a tellement de choses à prendre en compte là-dedans. Je pense qu'on en est loin. Et je pense que en parlant de la dangerosité et de Skynet, tout ça, on est vraiment dans le fantasme là-dedans.
Ouais.
Par contre, je pense qu'il y a des problèmes beaucoup plus concrets qui sont intéressants de se poser en tant que société sur la robotique humanoïde ou non en général.
Bah, justement, venons-y peut-être. On fait un petit détour par ce domaine et je vais le faire avec. La question débile, je suis désolé, mais je vais la poser quand même et tu y as en partie répondu, mais je vous la pose à tous les trois. Je ne sais plus si c'était avant ou pendant l'introduction, mais je parlais du Japon et de l'Asie en général, où la robotique est considérée naturellement comme presque des animaux de compagnie ou des aides, ce genre de choses. Quand on pense à des robots, on voit le gentil majordome qui va aider les personnes âgées à faire leur déjeuner. En Occident, on pense tout de suite beaucoup plus à Skynet et Terminator et les robots tueurs. Est-ce qu'on a... Bon, je comprends que le sentiment est naturel, pour tout un tas de raisons, mais est-ce qu'on a raison de s'inquiéter, même en plaisantant, de ces choses-là? Alors, on a toujours raison de faire attention à ce genre de choses, hein, mais je veux dire, concrètement, est-ce qu'il est temps de réfléchir à ça? Est-ce que c'est une bonne chose? Ou, enfin, Steve, j'ai l'impression que tu disais, oui, enfin, les gars, calmez-vous, quoi. On n'y est pas du tout, du tout. C'est vraiment, là, c'est tellement loin que c'est un peu ridicule. J'ai l'impression que c'est ce que tu disais. Mais je vous pose la question à tous les trois, votre avis à vous, pas de vérité universelle, mais à votre avis. Et peut-être qu'on commence par Steve qui avait commencé à y répondre.
Donc, pour moi, il y a des problèmes beaucoup plus concrets qui sont liés à la robotique, comme je disais, et notamment avec cette notion d'autonomie et le fait que, malheureusement, l'actualité nous le rappelle, hein, on vit dans un monde où la guerre existe. Il y a vraiment cette question de qu'est-ce qu'on peut faire avec des robots autonomes. Et sans parler de robots qui vont asservir l'espèce humaine, donc, ou encore... Pour moi, ça relève vraiment du fantasme et je pense que c'est vraiment regrettable que des gens comme Elon Musk soient capables de sortir ce genre de choses. Il y a vraiment une question de dire, est-ce qu'on autorise à ce que des robots puissent prendre la décision ou pas de supprimer des vies humaines. Donc, sans parler de robotique humanoïde, c'est pas du... Donc là, on peut voir un rapport avec la question, avec le rapport que les gens ont. Les gens... leur Roomba, ils ne le trouvent pas nécessairement dangereux. Même s'il y a des robots, pas des Roomba, qui collectent des données sur les appartements. Oui. Donc, les Américains utilisent des drones. Et donc, là, ce qui fait que le drone ne prend pas de manière autonome la décision de tuer, c'est qu'il y a un opérateur dans une cabine au Texas qui, à un moment donné, valide le fait de presser à détente. On peut débattre du bien fondé de ça. Donc, moi, je ne suis pas du tout là pour... Mais dans tous les cas, il y a quand même une différence.
Mais c'est là que la vraie question se pose, quoi. Tu veux dire, c'est pas le fantasme de Skynet, vous êtes gentil, mais c'est un petit peu ridicule. Par contre, on a aujourd'hui des capacités avec ces outils, si on veut les appeler comme ça, qui sont réelles, et il faut prendre des décisions qui sont plus du domaine législatif, politique, et presque moral, de l'éthique. Et c'est ça les vraies questions qu'il faut se poser sur les robots ou pas. Est-ce qu'ils vont asservir l'humanité dans 200 ans, quoi?
Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plutôt un consensus donc dans la communauté internationale sur le fait qu'on ne veut pas autoriser ça. Il y a un débat aujourd'hui entre les pays, et notamment les grandes puissances, sur le besoin de légiférer plus ou pas. Notamment, des grands pays comme les États-Unis et la Russie estiment qu'il n'y a pas besoin de légiférer plus. Il y a un débat là-dessus. Et la communauté scientifique en robotique, il y a eu beaucoup d'initiatives individuelles à ce sujet. Mais dans son ensemble, en fait, elle est assez peu sensibilisée au problème. Et je pense que c'est un problème de société qui est intéressant. Il y a des collègues qui ont publié des articles allant dans ce sens, notamment Ludovic Righetti de l'Université de New York avec Quang Pham, qui est à Singapour. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est des dangers beaucoup plus immédiats parce que technologiquement, on est franchement, pas très loin d'avoir ça. Mais là, on voit bien qu'on n'est pas dans une problématique de les robots vont prendre le contrôle de l'humanité. On est plus dans qu'est-ce que nous, en tant qu'humains, on peut faire avec n'importe quelle technologie qui peut être...
Et n'importe quel outil, n'importe quel... Ouais. Bon, je pense que c'est difficile de même pas de contredire, mais de rajouter quelque chose sur ce que vient de dire Steve, parce que c'est tellement plein de bon sens. Mais je vous pose quand même la question à tous les deux aussi. C'est pratique, hein, moi je pose juste les questions, je n'ai pas besoin de répondre. Mais Céline, quand on a ce fantasme de Terminator, quelle est ta réaction, toi, qui a côtoyé un petit peu ce domaine ?
Mais en fait, je trouve il y a une distinction qui est intéressante à faire, et c'est ce que Steve a fait maintenant, c'est le débat autour de ce qui est possible et puis de ce qui est désirable et puis notre capacité qui tient pas juste à celle des experts, qui est d'imaginer ce qui pourrait nous convenir, évidemment dans les limites, non pas du possible, mais du vraisemblable, dans le sens où parce que on peut pas s'arrêter au débat de c'est impossible qu'on réussisse un jour à faire ça. On voit qu'on est parfois surpris par nos propres découvertes, mais donc on peut très bien avoir des débats sur le désirable et ce qui va nous convenir pour la suite. Et ça, il me semble que oui, c'est très important de le
faire. Faut y réfléchir aussi, quand même, quoi.
C'est ça. Et quand on parle de Terminator et tout ça, en effet, il y a toute une série de peurs et des dangers qu'on imagine parce qu'on n'est pas dans le domaine et que on s'accroche à nos représentations spontanées et puis qui sont véhiculées par notre culture, d'ailleurs, que ce soit occidentale ou peu importe. Mais il me semble ce qui est dangereux, en fait, c'est de ne pas réfléchir sur la manière dont on résout nos problèmes. Donc, tu parlais, par exemple, des personnes âgées. Donc, voilà, c'est un problème qu'il y a, par exemple, la solitude des personnes âgées. Ben, on se dit directement, ah ben oui, on va créer un robot qui va résoudre ce problème. Mais la question...
Pas exactement ce que j'ai dit, mais oui, je comprends.
Non, mais je veux dire, il y a cette tendance où c'est assez logique, quoi. On se dit, pourquoi, quand on pose la question, mais pourquoi vous créez ce robot? Ah ben, il pourrait aider les personnes âgées, voilà. Mais on ne se pose pas la question de se dire, mais tiens, ce type de problème, est-ce qu'on veut vraiment les régler via la robotique? Ou est-ce que ça vaudrait le coup peut-être d'investir dans d'autres types de solutions? Et donc, il me semble que l'idéologie d'aller vers la technique pour solutionner tous les problèmes, ça, c'est dangereux plus que des idées de Terminator ou de dépassement de la technologie.
Le solutionnisme qui est un problème dans différents domaines de la tech, effectivement. Et du coup, tu attendais ce moment, Florence, c'est à ton tour. Même question, maintenant que le niveau des réponses est quand même assez élevé. Donc, bon courage.
J'ai de la chance, ils ont déjà bien dégrossi le sujet. Oui, mais...
Tu peux me dire, non, mais ils ont répondu à tout.
c'est ça. Non, je vais aller dans le même sens qu'eux, c'est-à-dire que... Et rajouter juste un point, c'est-à-dire qu'en fait, c'est marrant parce que ce sujet, il est complexe parce qu'en fait, Steve l'a dit précédemment, mais la problématique de recherche de la robotique humanoïde ou la robotique à jambes de manière plus générale, elle est hyper intéressante parce qu'elle est très complète. C'est-à-dire qu'elle exploite des domaines tels que maths, physique, électronique, mécanique, tout ce qu'on veut. Très intéressante. Et donc, nécessairement, il y a toujours un peu cette question qui se pose de « Ok, mais ce que tu recherches, ça sert à quoi ?» Et en fait, moi, je préférerais qu'on me dise « Bah, en fait... je cherche, c'est tout. Je cherche à faire avancer la science et on n'a pas besoin forcément d'aller vers une application concrète. Après, est-ce qu'il y en aura ou pas, j'en sais rien. À mon avis, c'est davantage dans ce que disait Steve, c'est-à-dire qu'il faut légiférer dessus et ensuite, c'est les industriels qui en feront ce qu'ils voudront et pourront. Mais en effet, faut se poser ces questions-là et même si on... C'est ce que disait Céline, mais en fait, même si on oublie tout ce qui est lié au militaire... En fait, il faut aussi se poser de la question dans laquelle on souhaite vivre. Notamment, je pense que l'exemple il était assez parlant sur s'occuper des personnes âgées. Mais même si on avait des robots un peu plus, on va dire le robot utile dans la maison qui t'amène ton café, etc. En fait, il faut quand même aussi imaginer que c'est forcément des choses qui vont être relativement onéreuses, relativement consommatrices en énergie. Et donc, est-ce qu'on n'a pas d'autres priorités avant ça que aller vers potentiellement une société qui est déjà plutôt déséquilibrée et ce genre d'outils aurait potentiellement tendance à aller dans ce même sens de déséquilibre, quoi.
Ok, du coup, là, je vais me retourner un petit peu contre vous et utiliser vos arguments contre tous ces chercheurs et ces robotisiens qui nous font perdre notre temps et nous mettent en danger. J'ai l'impression un petit peu que vous êtes en train de dire... Alors, la recherche, comme je disais, la recherche fondamentale, la recherche pour la recherche, moi, c'est... Enfin, il faut être un petit peu... pas bien connaître le monde pour savoir que c'est évidemment hyper important. Mais l'une des questions que j'avais, c'était... qu'est-ce qu'on essaye de faire avec la robotique spécifiquement humanoïde? Pourquoi c'est intéressant? Pourquoi c'est important? Et j'ai un peu l'impression que vous êtes en train de me dire, nous on fait de la recherche, quoi. Et puis arrêtez de croire qu'on va résoudre le problème des personnes âgées avec ça. Et puis, de toute façon, les armes, il faut faire gaffe parce que le jour où ils prendront la décision eux-mêmes, non, il ne faut pas pousser. Donc, ce que vous faites, ça ne sert à rien? Ou faut arrêter? Ou qu'est-ce que... Oui, la recherche pour la recherche, très bien. Mais à quoi ça sert? Pas dans le sens... pas dans le sens à quoi on va pouvoir... Comment on va pouvoir utiliser ça pour améliorer la société ou pour faire de l'argent, vous voyez, pour faire évoluer l'industrie de la robotique. Est-ce que la réponse à ces questions, c'est pour vous, hein, spécifiquement? Ben non, mais c'est juste des problèmes passionnants à résoudre. Et donc, la recherche pour la recherche, et c'est ça qui me passionne et j'ai envie de le faire. Et puis, les applications, on verra plus tard. Ou est-ce qu'il y a autre chose derrière votre motivation? Steve, je te vois hocher de la tête.
Donc il y a deux éléments très intéressants là-dedans. Donc sur la question, très rapidement, sur la recherche pour la recherche, je pense que ce qu'on essaie de dire, c'est que on a aussi beaucoup cette image du chercheur dans la tour d'ivoire qui réfléchit pas trop aux conséquences de ce qu'il fait. Je pense que ce que Céline, Florent et moi-même disions, c'était on a besoin d'avoir un débat sur les conséquences de notre recherche, entre guillemets. Voilà, je ne vais pas aller plus loin que ça, mais on a besoin d'être partie prenante, mais on ne peut pas être les seuls à être les tenants de ce débat. Ensuite, sur les applications, il y en a un certain nombre qui sont évoquées pour la robotique humanoïde qui font du sens, à mon avis. Donc, on a, après Fukushima, on a énormément parlé de la robotique humanoïde dans la communauté robotique. Donc, mais justement, en se disant, bon, bah, c'est un peu moche hein, ce qu'on a fait. On a envoyé des personnes dans des zones contaminées parce qu'on savait qu'il n'y avait pas le choix. Tchernobyl, ça s'est passé de la même manière, mais de manière un peu plus dramatique. Et donc, il y a quand même cette notion de dire, si on est capable de faire réaliser des manœuvres très risquées par des robots sans mettre en danger la vie de personnes humaines, il y a vraiment un intérêt.
Mais on parlait de... Bon, peut-être que Atlas, effectivement, c'est encore trop aléatoire et les scripts qui marchent ne sont pas toujours reproductibles dans la réalité. Mais des trucs comme Spot, ce n'était pas possible à Fukushima parce qu'il n'avait pas de bras, justement, ou il ne pouvait pas interagir assez bien avec... Ou peut-être que c'était trop tôt encore, Fukushima, pour ça. Alors, on n'y est pas ?
Je pense que c'était trop tôt. Donc, il y a vraiment cette notion d'interaction dont on parlait. Alors, il reste des petits problèmes avec les quadrupèdes, hein. Un problème tout bête, on est en train de parler avec des industriels, là. Sur des escaliers d'échafaudage, on a des quadrupèdes là, qui ne passent pas parce qu'ils sont trop gros pour tourner. Enfin, donc, sur les questions morphologiques, il y a vraiment des endroits où un humain passe et pas grand-chose d'autre qu'un humain, parce qu'on a adapté le monde, entre guillemets, artificiel qu'on a construit autour de nous, il correspond aux mêmes années. Donc, Fukushima, par rapport à Spot, je pense qu'on est vraiment loin. Et par contre, il y a vraiment ces problèmes d'interaction dont on parlait.
Ouais.
Est-ce que Spot... déjà, il n'est pas du tout assez fort. On en parlait. Atlas, il est dangereux, encore une fois, pas parce qu'il va... C'est vrai, parce qu'en fait, la puissance que ce robot peut dégager, ça peut vraiment mal se passer. Et si on l'envoie chercher... sauver des gens sous des débris, par exemple. Donc, on a un problème de comment est-ce qu'on est certain que le robot va être capable de réaliser la séquence de tâches nécessaire à accomplir sa tâche, mais aussi est-ce qu'il ne va pas apporter plus de problèmes qu'il va en solutionner.
Mais il y a ce genre d'application. Ouais, c'est ce genre d'application auquel tu rêves finalement. Est-ce qu'il y en a d'autres, ou j'ai une autre question ensuite, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui te motivent à continuer tes recherches et ton boulot ?
Donc, pour répondre tout à fait honnêtement, moi personnellement, ça va surprendre, mais je ne suis pas le roboticien type qui a rêvé de robot toute sa vie, qui était passionné par ça. Je viens de l'informatique graphique. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est les problèmes et leur manière de les formuler et comment est-ce qu'éventuellement on peut s'attacher à résoudre d'autres problèmes en traitant de problèmes humanoïdes. Donc,
d'accord.
Je ne sais pas si ça me fait rêver, mais c'est un exemple d'application qui revient couramment et qui me semble avoir vraiment beaucoup de sens. De dire, on va mettre des robots là où on ne veut pas mettre des humains pour de bonnes raisons. Ça me semble intéressant. Après, ben encore une fois, on parlait de débats de société. Si on remplace des humains avec des robots sur certaines tâches, ben comme le dit Florent, souvent il y a une question de rentabilité. Hein. Il y a aussi une question d'empreinte carbone. Malheureusement, quand on est dans les technologies, c'est compliqué. Mais il y a aussi un débat de société. Est-ce qu'on veut vraiment supprimer tous les boulots pénibles ?
C'est marrant parce que quand on parle de robots, on se rend souvent pas compte qu'on a déjà depuis des décennies beaucoup de robots dans nos maisons et que par exemple la lessiveuse qui n'a plus de boulot, c'est parce qu'on a des machines à laver et que la machine à laver, bah, elle ressemble peut-être pas à un humain, mais c'est un robot qui va faire la lessive pour nous, là où il fallait amener le linge au ruisseau et frotter sur la planche à une certaine époque. Et du coup, oui, c'est des questions qui se posent. Bon, alors nous, on est là pour parler de robotique humanoïde, on déborde sur le reste, mais c'est vrai que le champ d'utilisation de la robotique humanoïde sera peut-être un petit peu plus limité que ce qu'on imagine quand on sera rendu compte que l'option domination de l'humanité n'est pas forcément très réaliste. Du coup, j'ai une question qui est connexe à la robotique humanoïde. Est-ce qu'on arrive naturellement, de la même manière que on arrive à un rectangle en 3D avec un tonneau à l'intérieur pour laver le linge à partir d'une personne qui va frotter le linge sur des planches pour résoudre ce problème. Est-ce que parfois, en étudiant des problèmes que vous pensez pouvoir résoudre avec de la robotique humanoïde, ou dans votre, pas vous spécifiquement, mais dans votre domaine de recherche, on arrive à des solutions où on se dit « Non, mais attends, on n'a pas besoin de deux bras et deux jambes. » Ou alors, peut-être qu'on a besoin de quatre jambes et quatre bras. Ou est-ce qu'il y a des robots que vous avez vus qui vous ont surpris ou des trucs qui pourraient amuser le public et... Alors, encore une fois, vous êtes en soirée, vous dites « Attends, non, mais j'ai vu un papier de recherche où ils font un robot comme ça, mais c'est incroyable. » Et ça, vous êtes sûr de faire votre effet à côté du bar de boissons non alcoolisées. Non, pas aucune. Il n'y a aucun robot marrant, ouais. Genre des trucs.
Si, je pense que ça arrive souvent, mais c'est vrai que moi, je n'ai pas d'exemple en tête, non, directement. D'accord. Mais en fait, il y a plein de cas où, en effet, on a un robot humanoïde. On cherche à lui donner un contexte, on dit bah, il serait intéressant ici. Et ce contexte-là, il est assez facile à dire. Bon, ouais, en fait, là, tu mets un robot avec des roues, du coup, tu n'as plus à gérer l'équilibre, et c'est quand même beaucoup plus ouais. facile, quoi. Mais du coup, ça élude un peu toute la partie recherche qui va avec, quoi.
Non, mais c'est... Vas-y, Steve.
Non, il y a vraiment ce côté, bah voilà, des fois, le robot humanoïde, c'est un gros marteau, et on voit des clous,
des clous
en forme de marche d'escalier partout.
on sent que l'escalier, ça revient souvent. C'est un gros
l'escalier,
problème.
Ça va être sujet. Est-ce qu'il attrape la rambarde ou pas ? Enfin bon, bref, voilà, ça c'est les questions que je me pose tous les jours. Donc oui, évidemment, je ne vais pas être capable, comme Florent, de trouver des... Mais il y a la robotique, c'est vraiment... hyper diverse. Et là, il faut savoir que la robotique humanoïde, c'est vraiment tout petit hein, dans la robotique. Il y a des tas de robots qui sont réalisés pour des tas de tâches spécifiques. On parlait voilà, tout à l'heure de est-ce que vraiment la meilleure manière d'attraper des objets, d'interagir avec eux, c'est d'utiliser des mains. Voilà, il y a donc les Anglais, bah, depuis le Brexit, ils ont des gros problèmes dans le domaine de l'agriculture, puisqu'ils n'ont plus personne pour. Et donc voilà, il y avait des robots un petit peu aspirateurs pour éplucher des salades. Apparemment, ça marche mieux que des mains. Voilà, il y a des choses comme ça. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette question et c'était un petit peu ce que je disais aussi. C'est bah, si on a plein de place et qu'on a besoin d'un robot à jambes et qu'on a des escaliers très larges pour parler encore d'escalier, bah, est-ce qu'en fait on va pas juste prendre un quadrupède avec avec un bras manipulateur monté dessus. Donc cette question de la forme, elle est vraiment importante. Je pense que, à mon avis, et je pense que c'est pas grave, mais à mon avis, il y a quand même derrière la robotique humanoïde des gens qui, il y a un fantasme entre guillemets qui vient de notre culture populaire. Et je pense que tant qu'on en est conscient, c'est pas un problème parce que encore une fois, je pense que ça amène des problèmes intéressants d'un point de vue technologique, mais ça nous aide aussi à comprendre comment l'homme marche. Hein. On travaille beaucoup avec des biomécaniciens, notamment, parce que les problématiques de mouvement sont un petit peu les mêmes. Mmh. Voilà, ça amène d'autres problèmes. Mais je pense que il y a voilà pourquoi la robotique humanoïde, on en parle plus qu'autre chose, et pourquoi on en parle plus dans le public qu'ailleurs, bah, c'est juste parce qu'il y a un fantasme derrière aussi.
Oui. Bah, c'est peut-être ma question pour conclure, et là encore, je peux vous la poser à tous les trois. Au fur et à mesure de notre discussion, j'ai l'impression qu'on arrive petit à petit à la conclusion du fait que, au-delà du fantasme, des fantasmes sur la robotique humanoïde en général et sur les robots, hein, puisqu'on peut utiliser ce terme, j'ai l'impression que le champ d'application d'une robotique humanoïde est extrêmement limité, parce qu'on a souvent, au-delà de situations très spécifiques où on va avoir besoin d'utiliser un environnement conçu pour des humains sans avoir la possibilité de reconfigurer l'environnement, au-delà de cette situation-là, on a souvent des situations, des solutions différentes d'une robotique humanoïde qui vont être plus efficaces. Et même, enfin, je ne sais pas si on pense au hasard l'exploration spatiale, si on conçoit des vaisseaux uniquement pour des humains et qu'on veut mettre des robots dedans, pourquoi pas? Mais si on fait des vols pas habités ou ce genre de choses, bah, les robots, on n'a aucune raison de les concevoir comme des humains, de leur donner des formes humanoïdes, aucune ou peu de raisons. C'est très loin et le champ d'application est limité pour les robots humanoïdes. C'est vrai cette impression que j'ai ou je noircis, enfin noircis, non, il ne s'agit pas de noircir, mais je transforme un peu le tableau.
Alors, peut-être en fait, Céline, tu pourras mieux répondre à cette question.
T'es un petit peu extérieur.
je pense que donc. D'un point de vue recherche, pour moi, c'est vraiment justifié, encore une fois, pour ce qui a été...
Je ne suis pas en train de dire le contraire. Hein, moi, je suis à fond. Moi, j'ai lu Asimov, je veux je suis avec vous.
Je pense que les applications, on ne les connaît pas forcément, enfin, pour parler un petit peu de recherche. À mon avis, elles ne seront pas forcément où on les attend. Maintenant, je pense qu'il y a... On parlait d'un fantasme, mais je pense qu'il y a la robotique humanoïde, elle est aussi... peut-être qu'en termes d'application, pour des raisons psychologiques, notamment par rapport au rapport que l'homme va entretenir à terme avec des robots humanoïdes, peut-être que c'est justifié. En effet, si la motivation première du robot humanoïde, c'est l'interaction autonome avec l'homme. Si on n'a pas besoin d'interagir avec des hommes, ou si on a, ou si on construit spécifiquement l'environnement pour le robot, il suffit de regarder l'industrie automobile allemande. Ouais,
c'est un exemple que j'allais évoquer à un moment.
Y a des choses qui reviennent. Je pense que ce qui est important, ce qu'il faut garder à mon avis globalement, et qu'il y a beaucoup d'applications pour le coup de la robotique humanoïde, c'est le fait qu'on ait d'une part des jambes, mais d'autre part des bras qui ne servent pas qu'à la marche et qui donc sont libres d'interagir avec l'environnement. Est-ce que autour de ça, il faut nécessairement un modèle anthropomorphe? J'ai pas de bonne réponse à ça.
On ne sait pas encore. Oui.
Bah après, c'est Patrick, c'est intéressant que tu dises oui. Est-ce que je noircis le tableau? En fait, c'est ça. Une fois qu'on arrive à cette conclusion, on a un peu cette émotion. On se dit bah. En fait, cette robotique humanoïde, là, on est émerveillé, on se poussait un peu avec ça. Et puis, une fois que on analyse un petit peu plus, puis on écoute les chercheurs qui nous parlent de la discipline, on a cette sensation que on tue un peu le côté sympa et le côté excitant qu'on attribue à ça. Mais en fait, il y a moyen de réfléchir et de rêver à des applications qui nous redonnent ce sentiment vis-à-vis de la technologie. Et donc, quand on voit tous les enjeux qu'on a au niveau environnemental, on ne va pas s'en sortir juste avec deux, trois bonnes paroles et un bon sentiment. On va avoir besoin de la technologie pour résoudre toute une série de problèmes. Et ça, en fait, on peut retrouver cette sensation, ce sentiment d'émerveillement qui peut nous... qui peut nous aider. Donc moi, j'aurais tendance à dire que oui, ta conclusion, je suis d'accord avec cette conclusion, mais c'est pas pour autant une image noircie. Au contraire, c'est le départ pour réimaginer et penser à des applications qui vont être encore en fait beaucoup plus excitantes que les fantasmes qu'on a par rapport en science-fiction.
D'accord, j'aime bien cette version. Merci beaucoup, Céline, ça me convient. Et du coup, je laisse le mot de la fin à Florent, qui peut conclure, puisqu'on arrive au terme de l'émission. Je te laisse la parole.
Bah, Pour le coup, là, j'ai vraiment pas grand-chose à ajouter parce qu'on a bien fait le tour. Mais je veux juste appuyer sur le fait que même sans application, c'est un domaine qui nous en apprend beaucoup sur plein d'autres domaines, notamment sur notre propre capacité à interagir avec l'environnement, à générer du mouvement. Et juste ça, en fait, c'est déjà pour moi hyper important, même sans application. Quoi.
Peut-être qu'il est bon d'insister sur ce point à la base, pour le rappeler. Par principe, la recherche fondamentale n'a pas d'application. Sinon, ce n'est pas de la recherche fondamentale. Et sans recherche fondamentale, il n'y a aucune autre recherche ou progrès ou évolution qui est possible. C'est très bien de faire de la R&D dans les boîtes tech ou autres, mais tout ça vient généralement de quelque part, et dans l'histoire de la société moderne, on sait que c'est la recherche fondamentale, souvent sans but spécifique ou en tout cas avec des buts complètement annexes par rapport au progrès que ça a donné, c'est de là que viennent l'immense majorité des progrès de nos sociétés depuis la Renaissance, et peut-être même avant. Je ne sais pas si quelqu'un faisait de la recherche sur les moyens de locomotion quand il a eu l'eureka de la roue. Il s'est dit « Oh merde, mais attends, si on fait un truc rond, ça marche vachement mieux !» Mais oui, sur ce point, j'espère qu'on n'aura pas donné aux auditeurs l'impression que ça n'est pas le cas, parce que la recherche fondamentale est essentielle. Et d'ailleurs, ça serait con, parce qu'on est très fort en France. Alors, je sais que vous n'êtes pas tous en France, mais en France, sur la recherche fondamentale en général. Et c'est peut-être ailleurs qu'on a plus de difficultés à transformer parfois. Mais... Donc oui, allez-y, continuez. Moi, en tout cas, je suis content que les impôts servent à payer ça quand c'est le cas.
Est-ce que je peux ajouter une dernière chose ?
Mais évidemment, tout ce que tu veux.
Parce que on parle de la recherche fondamentale et puis les applications, mais ça ne veut pas dire non plus que la recherche fondamentale ne doit pas se poser de questions et que ce n'est pas son affaire. Mais par contre, ce n'est pas que son problème. Et je pense que c'est ça qui est intéressant de dire. Les débats entre experts, entre citoyens, ils me semblent vraiment intéressants. Et ça ne veut pas dire forcément de la vulgarisation de connaissances, de la médiation, mais en tout cas de se rassembler pour discuter, d'imaginer ce qui pourrait et quelles pourraient être les conséquences de ce qu'on crée. Il me semble que ce n'est pas que de la responsabilité des roboticiens ou des chercheurs, en l'occurrence. Et ça ne doit pas forcément concerner des applications précises. Mais donc, en gros, tout le monde a la responsabilité de se poser aussi les bonnes questions. Il me semble.
Je pense que cette conclusion est absolument parfaite. Donc, nous allons nous arrêter là. Merci beaucoup à tous les trois. Avant de partir, je voudrais quand même, si par hasard vous avez une activité en ligne et que ce soit un compte Twitter ou autre chose, et que les auditeurs peuvent vous y retrouver, s'il y a quelque chose que vous pouvez partager, c'est le moment. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez rester complètement anonyme. Dites-moi, Steve, est-ce qu'on te retrouve quelque part ?
Alors, moi, je suis un homme de Cro-Magnon des réseaux sociaux, mais j'ai un site web qui s'appelle stevetonneau.fr. Si vous voulez voir, mais pas les plus récents, mais pas trop vieux travaux, vous devrez pouvoir les trouver.
Très bien, stevetonneau.fr, on mettra le lien dans les notes de l'émission. Céline, est-ce que tu as quelque chose sur Internet ?
Alors moi, je suis en train justement de créer mon site, mais je suis très très lent, donc il n'est pas encore prêt. Donc...
D'accord, même pas de compte Twitter, Instagram ou quoi que ce soit, très bien. Florent, est-ce que tu es quelque part, toi ?
Je suis assez absent aussi des réseaux, mais je suis sur le fameux Discord de notre Patrick.
excellent choix, Florent, j'approuve. Et ben, vous pourrez donc retrouver Florent sur le Discord, dont le lien est dans les notes de l'émission. Vous retrouvez aussi tout ça sur notrepatrick.fr.com. Oui, .fr redirige vers .com, donc ça marche aussi. Et vous retrouvez plein de choses dans les notes de l'émission. Je vous encourage à aller regarder ça. Et si vous voulez nous retrouver, enfin me retrouver dans l'émission habituelle, c'est tous les mardis où on traite de l'actualité tech. Et vous retrouvez donc le rendez-vous tech tous les mardis sur Twitch et bien sûr en podcast. Tous les liens sont dans les notes de l'émission. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci encore à vous trois, Steve, Céline et Florent. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode, entre guillemets, normal. Ciao, ciao.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.